c'est un long apprentissage que de savoir rejoindre enfin la vie qui nous va. Cela fait 3 ans qu'à travers ce podcast, nous vous proposons de découvrir les femmes et les hommes qui nous inspirent. Je suis toujours Charlotte, cofondatrice de Juillet, l'agence événementielle dont la raison d'être est la rencontre. Et pour cette saison 4 de l'Instant Juillet, je vous invite à partager avec nous la suite de notre aventure. De l'idée de Juillet à sa naissance, de nos imprévus à la création de vos événements, de nos détours à la réalisation de nos ambitions, une seule chose n'a jamais varié, notre été invincible. Alors, nous vous proposons pour cette nouvelle saison de rencontrer les personnes dont la réussite nous inspire et de découvrir ensemble le sens de leur été invincible. Rien n'est possible sans envie, rien n'a de sens sans rencontre. Alors posez-vous, respirez et savourez avec nous votre instant juillet. Nous sommes très heureux aujourd'hui d'enregistrer notre podcast dans un véritable studio de radio puisque nous sommes au Mans, dans les locaux de Sweet FM, en compagnie de Julien Lagasse, directeur commercial du groupe Régie Radio Région qui couvre 52 départements avec 20 stations radio locales. Nous avons connu Julien lors de nos engagements communs sur notre territoire en partageant notre volonté d'y développer l'offre culturelle et musicale et nous avons eu l'occasion de nous croiser plusieurs fois et d'échanger sur ce qui nous animait et nous nous sommes retrouvés sur l'importance de l'audio dans la communication. Que ce soit via le podcast ou la radio, la voix reste un vecteur de communication puissant qui permet un lien incomparable avec les auditeurs et au moment où nous nous approchons de notre nouvelle saison et que nous frôlons les 50 épisodes de l'Instant Juillet, nous avions envie de prendre du recul et d'échanger avec un confrère sur ce que le média représentait sur notre chemin. Alors c'est avec beaucoup d'impatience et plein de questions en tête que je vous présente Julien, le temps d'un Instant Juillet. Julien, bonjour.
Bonjour Charlotte.
Merci beaucoup d'avoir accepté d'être notre invité sur l'Instant Juillet. Je suis vraiment très flattée de t'avoir sur notre podcast parce qu'avec Cédric, ça fait longtemps que nous voulions parler de l'importance de la voix et du support audio en général. On l'a évoqué ensemble. Quand nous avons créé notre podcast, nous avions imaginé pouvoir proposer à notre communauté un contenu permettant de faire un pas de côté, de se questionner sur son propre parcours. Et en utilisant la voix, il est plus facile qu'à l'écrit de transmettre l'émotion à l'auditeur, de développer une relation plus personnelle qu'à la lecture d'un article ou d'un post sur les réseaux sociaux. Et surtout, nos auditeurs choisissent de nous écouter au moment où ils le décident, où c'est bien pour eux. Donc petit à petit, nous nous sommes rendus compte que cet exercice nous apprenait beaucoup aussi sur nous, sur ce qui nous porte, sur ce qui nous inspire. Et cela nous a permis de voir les choses différemment, de ne pas se laisser envahir par les urgences, on l'a évoqué, et de rester vraiment focus sur notre pourquoi. Alors dis-nous, pourquoi toi, tu as choisi de travailler pour la radio et est-ce que ça veut dire pour toi l'audio ?
Alors la radio, c'est venu il y a des années, jeune ado. À 13 ans, j'écoutais des radios avec un contenu qui me permettait d'éviter des questions embarrassantes à mes parents, notamment sur l'éducation sexuelle.
Le doc.
Et voilà, exactement. Et puis après, le côté très clairement déjanté de Max, qui a fait, je pense, mourir de rire des centaines de milliers de jeunes au travers de la France et de la Belgique, puisque moi, je l'écoutais depuis Bruxelles. Et la magie, en fait, de ce média. Alors, j'ai eu la chance d'avoir un papa dans l'événementiel qui a fait de la radio aussi. Et à 13 ans, je me suis retrouvé standardiste chez Fun, en Belgique.
Génial.
Qui est une toute petite station, en fait, parce que le décrochage se fait après la matinale et puis il renvoie l'antenne juste avant Doc et Difool. Mais la gestion des concours, passer de l'autre côté du miroir, parce qu'en fait, elle est là, la force de l'audio, c'est qu'on suggère les choses, on vous prend par la main, on vous indique un chemin. Mais après, c'est nous qui imaginons ce qu'on voit et ce qu'on ressent. Et de rendre compte de comment la magie était fabriquée, ça a été un déclic pour moi. J'y ai passé des mois d'été géniaux. Et puis, la vie a fait que j'ai mis ça entre parenthèses. Et je me suis beaucoup investi dans le sport, notamment dans le basket, dans le jeu vidéo professionnel, dans l'événementiel aussi. Puis un jour, en 2006, j'entends une pub à la radio, toujours sur Fun, qui dit « Devenez professionnel de la radio ». J'avais 24 ans, je me cherchais, j'étais complètement perdu en termes d'orientation. Et on sort du match de basket, on a tout gagné cette saison-là. J'entends cette pub. Le lendemain, je passe le coup de fil et je vais sur le site internet pour me renseigner. Et 3 jours plus tard, le 3 juin, je me retrouve à Saint-Amand-Montrond dans le Cher.
Oui.
Donc Bruxelles-Saint-Amand-Montrond, ça a été un grand écart. Et me voilà rendu pour une semaine un mois intensif de formation radio. Au bout du deuxième jour, on était à l'antenne sur la radio associative, RDB, qui n'existe plus, qui s'appelle aujourd'hui Berry FM. mais qui m'a fait manger du micro, rencontrer Sandra, qui est mon binôme professionnel depuis toujours, qui est ma femme. Et ouais, voilà, ça a été...
Une histoire de rencontre, quoi.
Une rencontre, d'opportunité à saisir, parce que voilà, là, moi qui suis aujourd'hui dans le commerce audio, vous dire à quel point un spot de 20 secondes entendu dans une radio a changé ma vie. Là, on est dans...
Ouais, c'est clair.
Voilà, c'est la preuve par exemple. Et j'en parle presque chamboulé d'émotion parce que ça...
C'est rigolo parce qu'en plus, c'est vraiment un changement de vie total. Parce que là, tu le dis, ça a l'air facile, mais c'est super dur. Parce que tu as 24 ans, tu es à Bruxelles et ouais. Tu pars faire un métier que tu ne connais pas après un spot qui est entendu qui dure 20 secondes dans le fin fond du pays.
J'avais besoin de partir. J'étais dans...
Dans des
facilités, voilà, ça fait des mois que je mûrissais un départ. La raison, la destination, c'était pas spécialement le propos. C'était vraiment besoin de casser des routines, les facilités, etc. Et étant plutôt hypersensible, je vivais par procuration la vie des autres. J'avais besoin de me réaliser. Et le fait de pouvoir créer cette rupture, de découvrir qui j'étais réellement, je l'ai découvert dans cette radio. Où on a fait à peu près tous les métiers de la radio, donc animateur, co-animateur, journaliste, producteur, puis programmation musicale, programmation publicitaire. À ce moment-là, je n'avais pas du tout la fibre du commerce, par contre. Voilà, moi je...
Peut-être pas assez sûr de toi aussi, en tout cas si tu dis que tu étais un petit peu timide, voilà, le commerce est peut-être un petit peu difficile
très timide,
de commencer
très
par
timide.
Ça.
Je longeais les murs, mon seul objectif c'était de faire de la technique, quoi, monter des ordinateurs, travailler dans l'ombre.
Ouais, mais à la fois, tu avais des choses à dire.
Ouais, mais ça, on le découvre après.
Parce que c'est intéressant avec la radio, parce que finalement, tu peux t'adresser à plein de gens, mais tu les vois pas. Ils sont un peu cachés, puisque finalement, toi, t'es tout seul dans ton studio. Et donc, tu vas pouvoir peut-être vaincre cette timidité et parler de choses peut-être qui te portent ou qui te touchent, parce que finalement, t'as presque pas la sensation d'être entendu.
Mais c'est en fait exactement ça. C'est-à-dire que déjà, quand on fait une émission de radio, avant qu'on soit... au tout numérique, où il était possible de tout enregistrer, tout rediffuser, on était en direct, quoi, sans filet, donc avec une certaine forme de pression malgré tout, même si on ne se rend pas compte de à qui on s'adresse, ni en termes de quali, ni en quanti, combien de personnes, combien d'oreilles nous entendent. Mais c'est une époque où les réseaux sociaux ne sont pas omniprésents comme aujourd'hui, donc on n'a pas toujours le même feedback. Et le feedback qu'on a de l'auditeur, il est extrêmement qualitatif, parce que là, du coup, ils prennent leur téléphone, ils nous appellent, on a en ligne directe, et c'est là où tu as raison, c'est-à-dire qu'un commentaire sur les réseaux sociaux, tu interprètes la ponctuation, alors que quand tu entends quelqu'un,
ah oui, ça n'a rien à voir.
Tu n'interprètes pas le sens, tu le comprends, le sous-entendu. Moi, je me bats constamment... pour les trois points de suspension à l'écrit, ça veut rien dire, ça. Et généralement, je pars du principe que si les trois points de suspension, on ne peut pas le remplacer par « etc. », c'est que les trois points de suspension n'ont pas lieu d'être. Parce que justement, on s'engouffre dans des messages qui n'en sont pas. Voilà, oui. Ça commence à devenir un peu toxique. Et ça, voilà, pour répondre ou pas à ta question, mais c'est la puissance de l'audio, de se livrer dans 9 mètres, 10 mètres carrés, et de se rendre compte qu'en fait, ça a une portée, quoi. Ça influe sur la vie des gens.
Et puis ça engage un petit peu, une portée finalement qui engage, parce que tu le disais, entre un feedback sur les réseaux, et on voit aujourd'hui les conséquences que ça peut avoir, c'est assez vite fait de faire un commentaire qui soit positif ou négatif sur quelqu'un. À l'écrit, tu mets un message, même des fois c'est juste méchant, ou même... Alors que finalement, quand quelqu'un, un auditeur va appeler, ou en tout cas que toi, t'as un retour oral de quelqu'un qui est derrière avec sa voix et il s'engage dans ce qu'il dit, c'est totalement différent la portée, que ce soit pour émettre un avis négatif ou positif, mais voilà, c'est totalement... L'engagement est pas le même avec la voix, quoi.
Oui, tu te rends compte aussi à quel point certaines choses sont beaucoup plus dimensionnées que ce que tu peux l'imaginer. On a été, nous, animateurs dans des stations vraiment de proximité, dans un secteur rural. La solitude que certaines personnes peuvent vivre et que le média radio est un média qui rentre chez les gens, et aujourd'hui l'audio, par la digitalisation, mais c'est un média gratuit qui rentre chez les gens en fonction de ce qu'on propose. On a ou pas plus ou moins de la présence humaine, est-ce que c'est juste quelqu'un qui annonce la musique ou est-ce qu'il y a des vraies émissions ou un vrai échange avec les auditeurs. Mais quand on a parfois des témoignages d'auditeurs comme ça nous arrive, à chaque confrère de radio, c'est de se dire « Bonjour, c'est Madame Intel, ça fait du bien de vous parler, ça fait 2 mois que je suis hospitalisé, j'ai vu personne. Mm-hmm. » Quand tu es dans ton studio de 10 mètres carrés, tu ne te rends pas compte que
oui, bien
au
sûr,
final,
que
tu apportes quelque chose à quelqu'un d'autre qui est plus que de l'info, de la musique, c'est une présence humaine, quoi.
Oui, un fond, finalement, oui, un fond sonore, quelqu'un qui est dans le foyer avec eux, quoi.
Oui, voilà, c'est-à-dire que là aussi, l'imaginaire, c'est quelle physique tu donnes à Max de Fun,
ouais,
par
ouais,
exemple.
c'est
Tu vois,
ça,
c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ah ben, moi, je vous voyais pas comme ça, avec des cheveux longs. Mais parce que c'est la magie, quoi. Tout le monde est stimulé par ce qu'il entend, tout le monde imagine, et surtout, la finalité de tout ça, c'est que tout le monde se l'approprie. Et c'est ça, je trouve, la force du média radio qui, par extension, est devenu l'audio. C'est ça qui fait que ce média résiste aussi bien au temps. Et il
Oui,
a
se
peut...
démode pas, ou en tout cas reste avec des audiences qui continuent d'exister et qui.
Alors, c'est en baisse, un média qui est en baisse, mais c'est une légère baisse continue dans le temps. D'autres supports ont été bien plus chamboulés par Internet, le digital, etc. La radio en permanence se réinvente, et là maintenant, le DAB, puis surtout l'IP radio et les podcasts permettent d'avoir un panel pour pouvoir s'exprimer et aussi s'affranchir de l'omnipouvoir de l'image, quoi. Voilà, qui est très très réductrice, je trouve, pour l'imaginaire.
Oui, moins créative, en tout cas, voilà, qui t'empêche d'aller vers toi ce que tu as envie de construire ou d'imaginer.
Oui, après, c'est de l'information prédigérée, quoi. Voilà, quand on travaille dans l'audio, quelle que soit la formule, c'est-à-dire que bah, on intègre l'information chacun à notre sauce. Il y a des baromètres d'enquête, par exemple, qui qualifient la radio comme média le plus sûr sur la qualité de l'information. Et ça, voilà, les journalistes y contribuent, tout ce travail d'investigation. La France a aussi un vrai historique avec le média radio, c'était le média de la résistance, enfin voilà,
Oui,
c'est
c'est
un
vrai.
média extrêmement puissant, et puis c'est un média qui s'adresse à tout le monde, entre les radios qui proposent de la musique classique, d'autres des radios format top 40 de variété, des choses qui sont plus de niche, avec des très gros acteurs, mais aussi avec du travail associatif, il y a quand même une offre qui est pléthorique, et qui amène à la diversité, et la diversité c'est la richesse, quoi. Donc je trouve que c'est un média qui joue un rôle prépondérant dans la société parce que voilà, moi j'aurais été hyper mal à l'aise de poser certaines questions de sexualité à mes parents. Bah moi, à un moment de ma vie, je sais que ce média m'a apporté des
Oui, où
choses.
tu t'es senti en
Voilà.
tout cas moins seul ou compris, ou en tout cas accompagné.
Exactement,
Ouais.
exactement. Et d'autres fois, on a juste rigolé parce que c'était un délire complet et que c'était bien drôle, que ce soit Arthur à la grande époque. Enfin
Ouais,
voilà.
bien sûr, ouais.
Donc moi, j'y crois dur comme fer. Je crois aussi que c'est un média qui évolue avec son temps. Et la preuve, c'est que toi qui, bah, voilà, tu es picousé maintenant.
Ouais, exactement, exactement. Et je t'entendais parler tout à l'heure de donc ton papa qui travaillait dans l'événementiel.
Ouais.
Alors tu vois, il n'y a certainement pas de hasard, mais c'est assez drôle. Souvent, on nous fait la remarque, nous, comme on est agence événementielle, pourquoi vous faites un podcast? C'est vrai que ça peut paraître étonnant. On crée des contenus audio, quel est le lien, etc. Et pourtant, je trouve qu'il y a un vrai lien, puisque l'événementiel, c'est la rencontre entre de vivre des moments ensemble et puis de faire de l'audio. Et toi, du coup, est-ce que tu vois un lien fort, toi, entre ton métier dans l'audio et l'événementiel que tu crées aussi aujourd'hui?
Alors oui, parce que sur nos radios, et là je vais parler de Suite FM que je connais très bien, même s'il y a beaucoup de contenus locaux thématisés, il y a aussi l'essence même du métier qui est la musique. Il faut savoir que pour la majorité des Français, la découverte de nouveaux artistes passe toujours par la radio. Donc en soi, on a aussi un rôle social, on l'a évoqué, mais aussi un rôle culturel.
Oui, parce qu'il dépend pas des algorithmes. Excuse-moi, je te coupe, mais sinon, si t'écoutes pas la radio, si t'écoutes justement tes playlists ou tes podcasts, bah, tu vas avoir tendance à écouter les artistes que tu
Oui,
connais ou ce
l'algorithme
qu'on te
t'enferme en
propose.
fait
Voilà, c'est ça.
dans une espèce
Que
de
finalement,
redondance de styles musicaux que tu
exactement.
as consommé une fois, donc tu continues à tourner en boucle
C'est
dans
ça.
ce style musical.
Donc
Alors
toi, t'as
qu'on...
un vrai rôle finalement. Enfin là, la radio a un vrai rôle culturel de dire, tiens, je vous fais découvrir un artiste que vous auriez pas écouté sans ça.
Oui, c'est ça. Et puis, il y a aussi une espèce de mouvance, c'est-à-dire qu'il y a X années, on était plutôt sur du pop rock, puis on a été tourné vraiment vers du soleil, puis on a été vraiment un côté plus urbain. Voilà, donc il y a des tendances de fond qui font que les radios aussi, elles, réinventent en fonction de ce que le public veut écouter, hein, parce que la quête, c'est quand même d'avoir de l'auditeur, hein, parce que malgré tout, je suis désolé, mais il faut vendre de la
Oui, c'est
pub
ça.
pour pouvoir financer ces belles radios, parce que bah, toutes les radios ne sont pas subventionnées, hein, il n'y a que les radios...
Oui, bien sûr,
publics qui
je
sont
parlais des radios,
subventionnés
oui.
et après les radios indépendantes, elles doivent trouver le moyen de se financer, quoi. Voilà. Mais oui, il y a ce rôle. Alors, pour répondre sur la qualité de l'événementiel, moi, je suis pour une radio qui sort de ses murs, qui va à la rencontre de ses auditeurs. Parce que justement, s'il y a ce service et cet échange, la radio a aussi pour intérêt d'aller voir ses auditeurs, de casser ce mur invisible. C'est faire la promotion des territoires aussi, parce que y a plein de communes qui méritent un détour, et ça se traite de plein de manières différentes. Déjà avec les journalistes qui vont en conférence de presse, qui traitent des... Tout ça, c'est important. Et puis vous avez des concerts qui sont, on va dire, la suite logique de tout ça, c'est-à-dire de l'événementiel, où on met en avant les artistes que l'on diffuse à l'antenne. Donc oui, l'événementiel est important. Et ça fait aussi connaître la marque, hein. Ça reste aussi du marketing. Quand on connaît comment fonctionne la médiamétrie, c'est important. Et puis ça permet aussi un trait d'union créatif, c'est-à-dire, moi je pars du principe que dans la communication, quand tous les supports qu'on exploite ont une suite logique ou du moins une stratégie commune, on ne fait que renforcer, encore une fois, l'image des marques, l'adhésion. Donc oui, faire de la com en radio, puis faire de l'événementiel, puis faire d'autres supports, etc., tout ça, c'est cohérent. Et moi, côtoyer d'autres experts, qu'ils soient de l'événementiel ou d'autres acteurs de la communication où je ne suis pas expert, je trouve ça juste hyper enrichissant, parce que la com, c'est tellement large.
Ah, c'est sûr.
C'est tellement en perpétuelle évolution, que ce soit technique ou en termes de code, de codification, que rester en veille des autres supports, c'est hyper enrichissant, parce que ça me permet, moi, de savoir comment je vais interfacer au mieux ma compétence dans celle des autres, en fait.
Et puis c'est des métiers beaucoup liés à l'artistique, donc forcément ça évolue et les codes évoluent, puisque les artistes aussi poussent ça. Et ce qui est intéressant dans ce que tu dis par rapport à la radio qui va chez les gens et qui est parfois peut-être la dernière présence un peu pour certaines personnes, quelque part d'amener aussi le concert, la musique, la culture dans des villages qui n'auraient peut-être pas les moyens ou d'attirer ce type d'artistes localement, ça permet aussi à certaines personnes de faire leur premier concert.
Ou l'inverse.
Et de découvrir...
De faire découvrir des artistes en devenir.
Oui, aussi,
par exemple, on a plusieurs de nos radios qui sont acteurs majeurs des castings The Voice. Et donc là, encore une fois, c'est un tremplin. C'est comment aller chercher des talents locaux et comment imaginer les propulser vers les sommets d'une émission qui, après, derrière, permet de faire des très belles carrières d'artistes, hein, Slimane, Kenji Girac, etc. Après, on aime ou n'aime pas. Mais on constater l'ascenseur qu'a été ces castings qui sont faits aux quatre coins de la France par des radios indépendantes et qui permettent d'alimenter ce télécrochet, quoi.
Oui, tout à fait. Et des choses qui viennent justement des territoires qui sont pas... On n'est pas obligé, du coup, d'être à Paris pour faire un télécrochet ou un radiocrochet.
Non, mais s'il y a bien un truc... Parce que, la télévision, ça coûte très cher à produire. La radio, il n'y a pas l'apport de l'image, donc on a quand même un coût de fonctionnement qui est moins élevé. Et donc, ça veut dire qu'en province, on a énormément de radios avec... non seulement énormément de talent humain, mais aussi avec un rendu extrêmement professionnel. Voilà, c'est pas pour rien qu'en France... C'est le GIE Les Indes Radio qui a la première audience de France. Ce sont 128 radios indépendantes qui œuvrent de concert et qui, on va dire, offrent une alternative aux réseaux nationaux. Et pourtant, c'est tous ces petits acteurs, enfin petits entre guillemets, hein, parce que c'est quand même très dimensionné, mais c'est cette force commune qui donne le pion aux plus gros réseaux nationaux, quoi.
Et ce qui est intéressant, il me semble, par rapport à l'audio, et on l'évoquait ensemble en aparté tout à l'heure, c'est justement ce côté... travailler le contenu, travailler le fond, prendre le temps aussi de développer des idées. On ne le prend pas assez aujourd'hui avec les réseaux sociaux, avec justement le côté aussi images, des images qui défilent, des chaînes par exemple d'infos avec tout le temps des images qui tournent. Et là finalement la radio reste un peu préservée de ça, ou en tout cas on a le temps de développer des choses, d'avoir prendre le temps de développer des idées en nuance aussi.
Alors sur l'aspect format, on va dire aujourd'hui il y a une appétence malgré tout pour les formats courts. Voilà. En 20 minutes, le matin, quelqu'un veut généralement les 2-3 titres qui fonctionnent, un bout d'actu, l'horoscope pour savoir si on y croit ou on n'y croit pas, mais dans tous les cas, on l'écoute quand même, l'horoscope, une bribe d'humour de l'animateur ou des animateurs. Donc voilà, se permettre une émission d'une heure sur une thématique très précise, quand on veut faire du volume d'audience, et quand je dis volume, c'est populaire, mais au sens noble du terme, quoi. C'est vraiment la radio du plus grand nombre, ce qui, pour soutenir le business model, comme je vous le disais, que les radios n'étant pas subventionnées, au bout d'un moment, il faut choisir. Mais c'est là qu'une autre frange de l'audio se développe, c'est le podcast justement. C'est-à-dire c'est les moments offerts où là, on peut prendre le temps, aller chercher du contenu, gratter un petit peu, et puis après c'est un jeu de questions-réponses et d'échanges. Et là, par exemple, les radios, ben, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont avoir... admettons une interview avec un politique, ils vont en extraire une pastille de 20 secondes qui va venir alimenter le flash info, mais sur leur site internet ou sur les plateformes, elles vont venir mettre l'interview au format complet. Donc la technologie est au service maintenant au final de l'audio, et qu'on veuille le condenser de l'information, on va le consommer en radio, mais si on va aller plus loin... Et bien derrière, on peut aller chercher l'information dans sa forme complète.
Et du coup, le contenu avec le fond, il a peut-être moins d'audience, entre guillemets, parce qu'il va intéresser un moins grand nombre. Mais par contre, ça va être vraiment des gens qui vont être captifs et intéressés par un sujet précis. Et donc, du coup, tu gagnes aussi en légitimité. Voilà. Et du coup, ça te permet d'avoir finalement peut-être une fidélisation de gens qui vont continuer à consommer tes contenus classiques, mais qui savent que voilà, tu peux aussi faire un contenu de fond et leur apporter sur leur passion précise ou leur sujet.
Mais c'est important parce qu'on ne fait qu'aller plus loin dans la démarche de l'offre pléthorique, entre guillemets. Et la force aussi du podcast, contrairement, on va dire, à une offre commerciale, c'est qu'elle a moins de chances d'être périmée dans le temps. Voilà, le podcast a une durée de vie beaucoup plus longue. Sauf si, je dis une bêtise, mais que les propos que j'engage aujourd'hui, je change totalement d'avis demain. Voilà.
Mais
en attendant, ça reste d'une certaine manière gravé dans le marbre. Et c'est ça aussi, du coup, la force de l'audio. C'est que là où, sur d'autres supports, on va dire, Charlotte a dit, deux points ouvrir les guillemets, là, on entend la voix de Charlotte. Et donc là, il n'y a pas débat.
On sait ça que, engage, c'est ce que je disais tout à l'heure. La voix vraiment engage.
Et donc, ça fait partie de la force de ce support.
Et finalement, c'est un point commun avec l'écrit. Quelque part avec la littérature, etc., qu'on perd un petit peu, mais finalement qui regagne aussi en légitimité sur des livres qui sont engagés, des contenus, des écrits, etc. Alors, est-ce que toi, est-ce que tu lis ? Est-ce que ça, c'est des contenus qui t'intéressent ?
Ah oui, je lis. Je lis par cycle, en fait. Je vais avoir des périodes où je vais lire beaucoup, d'autres où je vais lire peu, voire pas du tout, ça dépend. Alors en étant consommateur de radio, de podcast, rien qu'en étant en veille, on va dire là-dessus professionnel, mais aussi par du micro-learning, parce que sur du podcast, là je pense à Franck Le Talec, qui est un formateur qui intervient chez nous et qui lui aussi s'est lancé sur les podcasts. Ça permet de faire des piqûres de rappel sur des notions qui sont en acquisition ou acquises, mais voilà, un petit coup de rappel, c'est pas mal. Mais en termes de littérature, alors je vais peut-être te décevoir, mais moi je suis ancien rôliste.
Okay.
Donc, le jeu de rôle, Donjon Dragon, tout ça, voilà. Geek, on se refait pas.
Sur Avec les histoires dont t'es le héros, c'est ça ?
Ah oui, voilà, dans l'esprit, c'était ça.
Ouais.
Mais du coup, j'ai vraiment un attrait en termes de littérature pour l'heroic fantasy.
Okay.
Et puis sinon, je lis beaucoup de livres sur le développement personnel, des choses comme ça, le management et surtout l'ingénierie sociale.
Bah, ça te permet de progresser en fait, en tout cas sur les questions que tu te poses.
Alors déjà de me comprendre.
Ouais.
De progresser effectivement parce que je pense être quelqu'un qui fédère. Et malheureusement, enfin, il n'y a pas de discours universel, donc il y a aussi une question de savoir s'adapter, de comprendre l'autre. L'objectif étant d'emmener tout le monde le plus loin possible et le plus durablement possible, sans broyer de l'humain. Voilà. Donc il faut apprendre pour ça, c'est pas tomber tout cuit comme ça, mais j'essaye de m'y employer.
Et il y a une chronique littéraire non, chez Sweet FM, vous avez des moments dans la journée où vous parlez de, je sais pas, des critiques de livres ou...
Alors pas de critiques de livres, il y a des flash info plus ou moins longs, chacun flash info est composé d'une pastille sonore captée par les journaux sur le terrain, les journalistes sur le terrain, et les flashs sont vraiment géolocalisés, donc il y a beaucoup d'informations, et il y a des émissions sur certaines zones où on reçoit des artistes locaux, où on va plus loin en fait dans notre acte de radio de proximité, on va dire, où on n'oublie pas un peu d'où on est venu, parce qu'il y a 20 ans, là, je parle de Sweet FM, mais il y en a d'autres, mais Sweet FM, c'est une radio qui est née il y a 20 ans, c'était Radio Valduin, c'était la radio des commerçants de La Ferté. Ben aujourd'hui, Sweet FM, on l'écoute en Normandie, dans les Pays de la Loire et en région centre, mais on tourne... Je pense que l'idée, c'est de ne pas tourner le dos à ce qui a fait aussi le succès de cette radio. Quoi. Et moi, je suis très heureux de la représenter sur les territoires que j'occupe parce qu'elle coche vraiment les cases, pour moi, de ce qu'est la radio. Voilà, de son rôle, aussi bien en termes voilà, d'animation des territoires, en tant qu'acteur aussi bien de l'événementiel, de venir enrichir un événement parce qu'on apporte un artiste, parce qu'on apporte une couverture médiatique supplémentaire. Voilà, je suis très content de cette radio. Après, malheureusement, on ne peut pas aller sur tous les terrains. Il faut faire des choix parfois, parce que voilà, le volume humain de collaborateurs est fini, hein, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire... Mais il y a toujours des projets, ouais. Il y a toujours des projets.
Et alors, il y a des personnes qui t'ont inspiré ou des gens que tu admires et qui t'ont inspiré sur ce parcours ?
Ah, depuis 2006, si je dois recommencer de là, oui. Déjà Sandra, qui est, on va dire, mon hamster, elle est experte pour faire tourner l'interne d'une radio. Voilà. Et en fait, je me suis découvert au fur et à mesure du temps que moi, c'était l'externe. Et en fait, on est extrêmement complémentaires.
Ah ouais, c'est drôle, d'accord. Je vois ce que tu veux dire.
Donc moi, je m'occupe de la relation publique, par exemple, du commerce, etc. Mais par contre, grâce à elle, vous pouvez être sûr que tout va passer en temps et en heure. Mmh. Donc ça, c'était notre manière de fonctionner. On a fonctionné 11 ans comme ça, où on était H24 ensemble. Il y a des rencontres, évidemment, qui ont été des tremplins. Je pense à notre maître de stage, Ludo, à l'époque, qui nous a mis le pied à l'étrier, qui était d'une exigence extrême. Et voilà, on avait les exigences des réseaux comme Énergie sur Fun Radio, mais sur une radio à deux fréquences, quoi. Donc ça nous a forgé pour plus tard en termes de capacité de travail, en termes d'exigences vis-à-vis de nous-mêmes avant d'être satisfaits, quoi. Puis il y a la rencontre avec Wilfried et Tocqueville et Laure Tocqueville. Là, c'est pareil. Improbable, quoi. Un samedi, il vient à Loche mettre à disposition un traitement de son, ça vaut 10 000 euros. On voit le passionné à milieu arriver. Notre rencontre, elle se fait comme ça un samedi à Loche. Et on ne s'est plus jamais quitté, en fait. C'est-à-dire qu'il nous a offert une porte de sortie dans un moment de notre vie où professionnellement c'était compliqué. Et voilà, il a vu en nous, et Laure et Will ont vu en nous des possibilités qu'on n'imaginait même pas. Ils nous ont donné cette chance. Bon, après, on l'a saisi, hein,
bien
et
sûr.
On a fait ce qu'il faut.
Et puis travailler pour, oui, bien
sûr.
Mais
voilà, moi j'ai rencontré mon employeur aujourd'hui, hein, Régie Radio Région, filiale du groupe Ouest France. Mon directeur commercial de l'époque, pareil, a vu quelque chose en moi, m'a donné les clés du camion dans le projet du Loir-et-Cher. Donc ça, c'était une rencontre forte aussi. Puis des formateurs, j'en parlais, Franck Le Talec, qui intervient chez nous dans les cycles de formation, qui m'a, encore une fois, ouvert les yeux sur un champ de possibilités, sur le management, la gestion de l'humain, l'intelligence de situation, voilà, tout ça. Et j'ai envie de dire, à peu près tous ceux que je croise sur ma route, mon objectif, c'est de devenir la meilleure version de moi-même, mais jamais au détriment des autres. Voilà, je pense que quand on veut vraiment... en fait, ça part de ma hantise, qui est de devenir obsolète. Et pour ça, j'ai deux personnes qui m'ont servi d'exemple et qui m'ont un peu vacciné contre ça. C'est Philippe Préaubert, un collègue que j'aime vraiment beaucoup, qui est en Vendée, et notre ancien DG, Patrick Lelièvre. Et donc Patrick Lelièvre, à la veille de sa retraite, nous explique à nous ce qu'est l'audio digital, donc Deezer, Spotify, à 62 ans. Et l'année d'après, Philippe, à 60 ans ou 61 ans, est le meilleur vendeur de France d'audio digital. Si ça, c'est pas la meilleure preuve pour dire que l'âge, c'est
oui,
pas une date
dire.
De péremption, et d'où la volonté de la veille, d'où la volonté d'apprendre, d'écouter, etc.
Et de transmettre peut-être, parce que finalement, est-ce que c'est pas le meilleur moyen de pas être obsolète aussi ? C'est-à-dire de transmettre ce que tu sais à des gens finalement qui ont besoin d'apprendre, d'évoluer, puis que eux te transmettent en fait leur point de vue peut-être un peu nouveau, leur volonté d'avancer.
C'est sûr qu'aujourd'hui, avec, on va dire, les nouvelles générations, c'est un terme voilà, qu'on met, mais c'est sûr que écouter un collaborateur qui a 24 ans, qui vous explique comment lui, il intègre la formation qu'on lui donne et comment lui, il le conceptualise à hauteur de sa génération, c'est un point de vue qu'on doit considérer. Parce que, encore une fois, si on veut faire voyager nos supports dans le temps et les adapter, il faut être en phase avec le public qui potentiellement nous écoute. Et si jamais ce public ne nous écoute pas, il faut aussi essayer de comprendre.
Questions,
voilà.
Oui.
Et si on ne les a pas par tel ou tel axe, quel autre support on peut créer, parce que c'est ça aussi. On peut créer des choses sur mesure, on n'est pas obligé de rester enfermé. Et donc, être dans l'action plutôt que dans la réaction. Et ça vient de l'événementiel, hein, on le disait, c'est-à-dire on te donne un briefing de départ. Et voilà, maintenant, qu'est-ce que j'en fais ? Quel est l'objectif ? Comment je joue avec ma trousse à outils, voire même les compétences des collègues, des autres supports ? Comment est-ce qu'on peut atteindre notre objectif ensemble ? Alors, et c'est là où, en fait, je ne fais pas de commerce, moi. J'essaie de me dire que je fais du conseil. Et comme on n'est pas philanthrope, je suis désolé, il y a
un bon coût à mon conseil.
Et par extension, une facture, tu vois. Mais c'est envie d'apprendre, connaître les gens, se sentir utile, répondre à une problématique, un besoin, etc., qui en fait sont mon moteur aujourd'hui. Et oui, la transmission, parce que si on devait tous commettre toutes les erreurs possibles pour apprendre, on ne serait pas rendu. Et on serait encore à l'âge de pierre. Donc, transmettre, c'est important. Voir les collègues et les collaborateurs progresser, moi progresser à leur contact, parce que voilà, il y a le point de vue générationnel, il y a leur expérience. Voilà, c'est la chance d'avoir un métier passion, un métier en plein d'évolution et un métier où l'humain a une grande, grande dimension.
Oui, avec le côté travailler ensemble, et ça c'est très vrai aussi dans l'événementiel, c'est-à-dire que nous on le dit souvent, un événement, tu peux pas le faire tout seul de toute façon, parce que tu t'es avec des gens, t'organises pour des gens, et il y a forcément de l'imprévu, puisque c'est de l'humain. Donc ça veut dire qu'on est tous ensemble sur un temps limité, et qu'il va y avoir des imprévus, et qu'il va falloir qu'on les gère ensemble pour que tout se passe bien et que tout le monde passe un bon moment. Et donc c'est un petit peu ça aussi, finalement, la média.
Mon père avait deux adages là-dessus, et auxquels je m'identifie clairement. C'est déjà, si tu profites d'un événement que tu organises, c'est qu'il y a un problème.
Oui, c'est sûr.
Et l'autre, ça nous est arrivé plus d'une fois, et je pense que toi aussi, sur un événement, il y a un couac, et t'as deux profils de personnes. T'as la personne qui veut chercher le coupable, et t'as la personne qui veut chercher la solution.
Eh, tout à fait.
Voilà. Et chercher le coupable à l'instant T, c'est qu'une pure perte de temps.
Exactement,
et
ça agace tout le monde, et c'est pas grave le coupable, en fait.
Non, ou du moins pas là, tout de suite.
Oui, c'est ça.
Après, il faut comprendre pour chercher à optimiser et en tirer les enseignements, mais... voilà, moi j'ai des exemples comme ça qui me viennent où le temps qu'on cherche le coupable, eh bien, les autres avaient trouvé la solution. Et ça fait partie, je trouve, de l'état d'esprit de l'événementiel, c'est-à-dire que tout est toujours sur le qui-vive, tout est à flux tendu, et il faut être dans l'action en permanence. Et c'est ça qui rend en fait tout ça excitant, je pense qu'on se sent vivant.
Mais c'est sûr. Alors après, nous, ce qu'il faut qu'on gère, c'est l'après. Enfin, j'ai toujours ça, parce que souvent, les gens disent « Ah, ça doit être horrible, qu'est-ce que c'est stressant d'organiser un événement ?» Par exemple, tu sais, quand tu organises un festival et que la date arrive, est-ce que les artistes vont être bien à l'heure ? Est-ce qu'on a bien prévu le truc ? Le groupe électrogène, est-ce qu'il va marcher ? Est-ce que, enfin, je pourrais dire les toilettes et la météo. Enfin, on pourrait dire tout un tas de trucs. Donc effectivement, c'est stressant, mais finalement... on le gère assez bien, sinon il ne faut pas faire l'événementiel, tu me diras. Donc on arrive à gérer, avec les équipes ça se passe bien, on arrive toujours à trouver des solutions aux problèmes qui arrivent, etc., pas de souci. Et une fois que l'événement s'est déroulé, que globalement tout s'est quand même bien passé, où on est plutôt content, ou même les bénévoles avec qui on travaille, ou les équipes avec qui on travaille se sentent plutôt galvanisées, plutôt contentes de ce qu'elles ont réalisé tout au long de l'année, etc., l'événement se termine, voilà, rideau, il ne reste plus rien. Et là, finalement, il faut repartir sur l'événement d'après.
T'as une sorte de baby blues,
et
en
moi,
fait, après l'événement.
En tout cas, pour moi, c'est ce qui est toujours plus dur, c'est de se dire, ça y est, on a passé, je sais pas, quelques mois, parfois des longs mois, à organiser ça, ça s'est passé. Ok, faut redescendre et se dire, bon, je digère ça et je repars sur l'événement d'après, mais émotionnellement, humainement, c'est pas si simple, l'après, finalement.
Non seulement l'après, alors l'après est peut-être compliqué parce que le avant et le pendant sont tellement intenses. En fait, on est dans l'ascenseur émotionnel en permanence, parce que là, on est sur un événementiel, on est vraiment sur le 1 plus 1 égale 3, c'est-à-dire que la somme des individus n'arrive pas à égaler ce qu'on arrive à créer ensemble.
Exactement.
Et c'est vrai que du coup, la fin de ça, puisqu'on parle d'expérience, on parle de vivre un moment... sauf si on a pléthore de photos. Et encore, moi, je ne suis pas de ceux qui vont filmer un spectacle. Moi, je veux le voir avec mes yeux et le vivre. Et combien de fois on va regarder la vidéo d'un spectacle, je ne suis pas sûr. Voilà, moi, je préfère le vivre à 100%, quitte à ne pas en avoir de traces, mais en avoir une excellente image mentale. que d'avoir un reliquat sur un smartphone avec une qualité lambda.
Bah, et puis, tu as les images. Alors, évidemment, nous, on le fait. Hein, et puis, on a les meilleurs pour ça. On fait des belles images de nos événements. Mmh. On essaye de laisser un souvenir à nos clients aussi et de dire, voilà, on vous a filmé l'événement, ce que vous avez ressenti. Mais au final, quand tu es dans l'événement, tu as les odeurs, tu as les bruits, puis tu as ces coulisses que de toute façon, tu vois pas.
Et
puis, les rires que tu entends, etc. Donc, en fait, c'est un peu comme quand... Enfin, je fais souvent cette remarque-là, mais un peu comme quand tu vois un spritz à Venise... Tu bois un spritz en terrasse à Venise, t'es super, ah, meilleur le spritz, et je vais rentrer à la maison, je rachète le truc, tu le fais chez toi.
Il est
plus cher. Mais tu le fais chez toi, en fait, c'est pas si bon que ça, le spritz. Bah ouais, parce que t'es pas dans le contexte, quoi, t'es pas dans le truc. Donc voilà, et la fin d'un événement comme ça, ouais, c'est toujours un petit moment difficile. Je sais pas si ça fait ça en antenne, quand tu arrêtes en radio, tu vois, genre, allez, fin d'émission.
Le micro est une drogue, c'est une certitude. Déjà, moi, ça a guéri ma timidité. Moi, ça a guéri ma timidité, mais aussi, je me souviendrai toujours, quand j'arrête ma précédente mission pour embaucher chez Régie Radio Région, il y a quelques mois, allez, il y a 2-3 mois, et je dis à Sandra, à ce moment, en radio, je continue tout. Le seul truc que je veux arrêter de faire, c'est le commerce. Résultat, ans plus tard, je suis directeur commercial. Tu vois.
Bien joué.
Donc, entre ce que tu veux... ce que la vie te propose, ce que tu as envie de faire, et puis au final, t'es pas toujours le mieux placé pour t'auto-juger. Tu vois, c'est des gens qui voient des choses en toi et qui disent, bah voilà, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Moi, j'ai toujours vu le commerce un peu d'un œil, je vais pas dire péjoratif, mais voilà.
Ouais, mais c'est le côté journaliste, ça, c'est le côté... On a toujours un point de vue du commercial parce qu'on a l'image du vendeur de tapis qui est pas forcément honnête et qui essaye de te vendre le truc dont t'as pas besoin.
Mais c'est parce que cette frange existe
et
qu'elle
exactement.
Nuit à l'autre, exactement. On va dire, à ceux qui ont une autre approche. Mais c'est sûr qu'on a connu, et tu le sais, des moments compliqués lors de concerts annulés par la préfecture le jour J.
Oui.
Sur le moment même, t'es KO debout. Mais au final, on n'a quand même qu'une seule envie, c'est d'y retourner. À partir du moment où tu as cette fibre créatrice, où tu as envie de faire vivre des moments aux autres, sur de l'événementiel,
sur l'aspect
créatif, tu vois, d'avoir
des
choses qui te dépassent complètement, que tu serais incapable de porter seul et que tu as besoin de l'équipe et d'un faisceau de compétences, d'un faisceau de prestataires, etc. Et c'est aussi comment faire en sorte que tout le monde regarde dans la même direction. Là, on a vraiment l'esprit... collectif, quoi. C'est comme au basket, c'est comme au foot.
Ouais, c'est vrai.
C'est-à-dire que si tout le monde regarde dans la même direction, c'est la différence entre une somme d'individualités et puis un collectif.
Un groupe,
voilà.
Ouais.
Et ouais, ça m'a dégoûté 5 minutes et puis après on y retournait tout pareil parce qu'en fait on est fait comme ça, quoi. Et je pense que c'est pareil pour toi. T'as le blues parce que l'événement il est derrière toi, parce que c'est un peu comme une grossesse, vous l'avez porté,
oui,
vous l'avez
ça,
vu,
exactement.
Etc. Et puis derrière. Bon, bah maintenant, c'est derrière
on
nous,
l'a livré,
il faut repartir
autres,
sur autre chose, mais ça reste un plaisir quand même, même s'il y a des phases qui sont plus agréables que d'autres.
Bah, qu'il faut écouter, parce que ça fait partie du jeu aussi. C'est des phases qui nous apprennent aussi sur ce qu'on est, sur ce qui nous porte, c'est ça qui nous donne le courage aussi de se relancer.
Et puis, c'est facile d'être partenaire quand tout va bien.
Oui, tout à fait.
Demain, les choses sont plus complexes. On a eu toute cette espèce de test relationnel avec le Covid. Voilà, à notre niveau, on a détruit je sais pas combien de centaines de commandes à l'échelle de la France pour mieux les reconstruire après coup. Il y a des partenaires qu'on a évidemment soutenus. Ben voilà, c'est quand c'est compliqué, qu'on voit la vraie nature d'un partenariat et pas juste de l'opportunisme. Ou voilà. Donc moi, je suis très attaché à ça et je sais que je pense à Villebarou, à Glopelis, conseil départemental, tous les acteurs du privé quand on a dû annuler le jour J le concert de Villebarou. Je me suis senti seul 20 secondes. Parce que tout le monde a tendu la main, tout le monde a été solidaire. Et au final, comme tu dis, ce qu'il en reste, c'est une expérience. Alors j'espère que je vivrai ça qu'une fois dans ma vie.
Ouais, ce serait bien.
L'annulation d'un concert le jour J, quand tout est prêt, c'est compliqué.
On sera ravis en tout cas de venir au prochain.
Ah bah écoute, on y travaille. Là, les Jeux Olympiques ne nous aident pas avec les contraintes,
oui, c'est
tout
sûr,
ce qui est
c'est
sécurité, sûr. Etc. Mais voilà, ça fait partie de nos métiers. On n'échoue pas, on apprend. Hein, on va le dire comme ça pour essayer d'avoir vraiment le verre à moitié plein. Mais on y retournera quand même parce qu'on est malade, quoi. On est malade.
Et alors, du coup, c'est quoi ton demain, Julien? C'est quoi les futurs projets? Comment tu te vois demain?
Moi, je m'interdis rien. La seule chose que je me souhaite, c'est d'être heureux et utile.
C'est une belle ambition.
Et ce qui m'a rendu heureux à 20 ans ne sera pas ce qui va me rendre heureux à 50, c'est etc. Sûr. Donc, j'ai pas d'ambition, je me dis pas, je veux viser là, avec un poste précis. Je m'interdis rien, je suis très heureux là où je suis dans une entreprise. J'espère qu'ils m'écoutent, hein. C'est bientôt les entretiens individuels. Mais,
il faut qu'ils t'écoutent nombreux, il faut qu'ils soient nombreux à t'écouter.
Je suis dans une entreprise, alors, il y a les mots à la mode là en ce moment, c'est la bienveillance. La bienveillance, ça reste un mot jusque quand on l'a mis à l'épreuve. Et voilà, moi je viens de passer des moments très compliqués à titre personnel, et oui, mon entreprise a été là. Donc, quelle est la valeur financière de la bienveillance ?
Mm-hmm.
Je sais pas.
En tout cas, la valeur financière de ta qualité de vie, de ton bonheur au quotidien.
Voilà, ça coche une case en moi, ça exactement. Me correspond. Voilà. Donc, moi, tant que je suis heureux, tant que je suis épanoui dans ce que je fais, je vois pas de raison, tu vois, de me faire des nœuds au cerveau, d'être ambitieux. Là, j'ai une nouvelle mission, il y a du travail. Ça sert à rien de...
Ça a du sens pour toi.
Ouais, et puis la nomination en soi d'un poste, c'est rien, quoi. Je veux dire, c'est juste la validation de ce qu'on a bien fait avant. Comme on en parlait, c'est dans 2 ans qu'il faudra se dire, est-ce que je coche bien la case de la fonction que j'occupe aujourd'hui ? On le saura pas tout de suite, on le saura plus tard. Et puis être bon une fois, c'est facile. Mmh. Être bon dans la durée, tu vois, c'est encore, non, c'est encore autre chose. Donc c'est le mélange de tout ça. Il y a des choses qui me manquent. Bah ouais, le micro, ça me manque évidemment. Mais de temps en temps, j'ai des petites malaines de Proust que je m'autorise.
Ah, puis tu vois, on vient t'embêter à parler derrière le nôtre.
C'est pour ça que j'ai pas tardé à accepter, tu vois. Mais pas d'ambition. Je pense qu'avec l'âge, je me connais mieux. Je connais mieux mes attentes et je sais là où je ne transigerai pas.
Oui, là où tu n'as pas envie.
Voilà. Mon binôme à la vie avec Sandra, ça ne sera jamais remis en question. On a 2 enfants géniaux qui ont besoin qu'on leur accorde du temps, que je veux voir grandir, etc. Ils sont bourrés de potentiel, donc je veux les voir réussir, je veux les voir échouer, je veux les accompagner, etc. Et je ne suis pas prêt à tous les sacrifices, si tu veux, dans une vaine quête de je ne sais quoi. Voilà, pour le moment, moi je suis heureux, je sens qu'il y a du sens et je suis en phase parce que moi je dis toujours, on quitte pas une entreprise, on quitte un manager, tu vois. Et là aujourd'hui, même s'il y a du boulot, même si on va devoir se retrousser les manches dans tout un tas de domaines, bah, il n'y a pas de raison de s'embêter la vie, quoi. On continue. Alors oui, on est dans un contexte géopolitique, tout ce que tu veux, qui n'a jamais été aussi, je pense,
mais
compliqué.
Mais qui sera le cas, quel que soit
et
ton entreprise.
Et ce sera toujours le cas, parce que les vendeurs de peur feront en sorte qu'on ait peur. Mais voilà, moi je suis très serein.
Aligné.
Ouais, je suis heureux et j'ai pas de raison de remettre ce bonheur en cause, j'ai pas une quête de reconnaissance, de voilà. Je me dis demain, si je dois me fixer un but, ce serait de voir un collaborateur absorber tout ce que je peux transmettre et de le voir vraiment être propulsé parce que c'est un diamant brut, parce que il a saisi. Moi, j'ai pas d'ego vis-à-vis de ça, c'est-à-dire que si l'élève, entre guillemets, dépasse le maître, pour peu que je puisse être qualifié de maître, ce qui est, voilà. Mais voilà, je serais hyper heureux parce que c'est la nature de l'humanité, ça. C'est-à-dire de progresser. Alors, on parle que de communication, hein. On va
ouais, mais je
calme.
Vois ce que tu veux dire sur le sens. Mais, c'est aussi pour toi de partir serein, quoi.
Ouais,
de dire que t'as tenu ta place et que...
Oui, moi je suis un homme de projet et d'engagement. C'est-à-dire qu'un contrat moral, pour moi, est bien plus puissant qu'un contrat de travail. Je sais à qui je dois les choses. Il y a des gens qui m'ont beaucoup apporté, que je ne vois plus aujourd'hui pour X ou Y raison. Ça n'empêche que je sais ce qu'ils m'ont apporté. Aujourd'hui, je suis entouré d'une équipe. Voilà, il y a des gens qui sont tous très importants. Voilà, c'est la somme de tout ça qui fait que je suis serein pour l'avenir. Et je milite pour mon bonheur, mais jusqu'ici, tout va bien.
Merci Julien.
Avec plaisir, merci Charlotte pour l'invitation.
Merci d'avoir écouté cet épisode de l'Instant Juillet saison 4. Et s'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos amis, à vous abonner, à mettre des étoiles, des commentaires. C'est ce qui nous permet d'être de plus en plus écoutés et c'est important pour nous. Et bien sûr, n'hésitez pas à suivre nos comptes Agence Juillet et à nous écrire sur Insta, Facebook et LinkedIn. Nous vous répondrons toujours avec plaisir. On se retrouve très vite pour un nouvel Instant Juillet. En attendant, n'oubliez pas de rire et de crier, de chanter et de danser. N'oubliez pas d'oser. Réalisez vos envies, saisissez vos rêves, vivez l'instant, osez la liberté. Soyez juillet.